Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou.
Cette émission de la vie au quotidien au Capi Service, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons échanger sur les normes de construction des immeubles avec Michel Oyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP. On aura également l'ingénieur John Kabouidi-Bouidi, expert en conduite des travaux au niveau des chantiers. Comment lutter efficacement contre la pollution de l'information? Ce sera le deuxième sujet de ce magazine avec Patient Ligaudi, directeur général d'actualité possédée et auteur du livre « Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde » et en République démocratique du Congo. Polydor Bansunga assure la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission que présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Bienvenue dans Au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui des normes de construction des immeubles. Vous savez, les cas des immeubles qui s'écroulent sont de plus en plus fréquents. Le dernier cas en date est celui d'une bâtisse de 6 niveaux qui s'est écroulée au mois de mars dernier dans la commune de la Gombe. Selon des témoignages sur place, la fondation de cet immeuble était des 2 niveaux, mais l'architecte, sur demande de son client, a ajouté 3 étages supplémentaires. Voilà. Et le socle de la maison n'a pas pu supporter cette charge. Parfois, des constructions poussent sans un grand suivi de l'État congolais. Les autorités, les autorisations de bâtir sont délivrées sans faire au préalable des études. Les nouveaux acheteurs veulent construire en hauteur sans trop se soucier de l'étude du sol ou encore de l'environnement du terrain. Michel Oyumbu, vous êtes président de la Corporation des ingénieurs BTP. Bonjour.
Bonjour, M. Jody.
Alors, qu'est-ce qui explique que de plus en plus on enregistre des cas, des bâtisses, des constructions qui s'écroulent ou qui présentent des anomalies?
Merci beaucoup, M. Jody, pour l'intérêt que vous attachez à l'organisation dont nous sommes à la commande, la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Merci pour l'intérêt du sujet. Je voulais de prime abord dire que ce phénomène qui est devenu récurrent dans notre pays n'est rien d'autre que le résultat d'un désordre qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le désordre est tellement immense que, comme je l'avais déjà dit il y a 7-8 ans passés, que ce phénomène va continuer tant que nous n'aurons pas pris le courage de mettre de l'ordre dans un secteur aussi important que le secteur du BTP. Donc, c'est le résultat de la manière dont ce secteur est géré et qui montre à suffisance que nous ne mettons pas assez d'exigences pour permettre à ce que le secteur soit géré correctement. Il est évident que dans tout le pays du monde, ce genre d'accident arrive il y a des accidents qui sont prévisibles, que l'on peut éviter malheureusement chez nous, même les prévisibles, nous ne pouvons pas les éviter. Alors, brièvement, il y a un désordre au niveau même des acteurs du secteur. Qui sont les acteurs réels du secteur? Quelles sont les compétences des différents acteurs? Alors, quelle est la réglementation que nous, nous avons pour essayer de réduire au maximum possible ce phénomène? Donc, au niveau de la réglementation, il y a un problème. Le pays n'a pas un code de construction, le pays n'a pas un code de l'urbanisme, le pays n'a même pas un code du bâtiment. Il y a un vide terrible du point de vue réglementaire et on ne sait pas sur base de quel référentiel on peut donc organiser le secteur. Ça, c'est de un, au niveau de la réglementation. De deux, au niveau des différents acteurs, qui est qui et qui fait quoi? Qui a quelles compétences? Parce que, laissez-moi vous dire, M. Jody, que l'immeuble, bien sûr, un bâtiment, quand bien même il est conçu par un architecte, qui est le maître d'œuvre, mais pour que le bâtiment soit rigide et solide, il faut qu'il y ait un travail d'ingénieur qui va dimensionner le bâtiment. Il faut qu'il y ait un travail d'ingénieur, BTP, bien sûr, un ingénieur de génie civil d'une manière globale, qui va lui suivre l'exécution de ces travaux-là. C'est à ce niveau qu'il y a un souci. Or, oui. Dans les différents chantiers que nous observons dans la ville, nous ne savons pas qui est là, qui fait quoi, qui a quelles compétences. D'autant plus que le domaine du bâtiment, c'est le domaine, en fait, qui offre quand même assez d'opportunités. Et tout le monde est là-dedans.
Oui. Alors, ingénieur Yumbu, avant de délivrer l'autorisation de bâtir, quelles sont les études qui doivent être menées au préalable?
Oui, actuellement on appelle ça permis de construire, M. Joubi, avec tout ce qu'on a eu comme modification.
D'accord.
Mais c'est le même document, justement. Mmh. Et le permis de construire, lui, il est délivré sur base du dossier qui est présenté, dossier d'étude, dossier du projet qui est présenté. Jusque-là, l'unique condition que je fais, ce dossier d'étude est signé par un architecte, comme le concepteur du projet. On présente les dossiers, tout ce qui est étude architecturale, mais aussi pour des bâtiments de R+D+, à partir de 3 étages, les études de sol sont obligatoires et les notes de calcul de l'ingénieur sont obligatoires et cela non plus ne garantit pas la solidité de l'ouvrage. Si au niveau du dossier, le dossier a été très bien présenté, au moins, ça se passe comme ça. On peut présenter un très bon dossier, on obtient un permis. Mais cela ne garantit en rien tant qu'au niveau de l'exécution, il n'y a pas un mécanisme d'inspection ponctuel qui est permanent, je voulais dire, qui est mis en œuvre pour qu'on puisse se rassurer que ce qui a été présenté dans les études, surtout les études de structure, parce que c'est ce qui justifie la solidité de l'ouvrage, sont en train d'être mis en œuvre de la bonne manière. On peut présenter un bon dossier, on obtient un permis. Mais pour qu'on se rassure que l'exécution se fait correctement, il faut qu'il y ait une inspection des travaux. Ce qu'on ne fait jamais chez nous. Au niveau du ministère, on s'arrête à délivrer les permis et le reste, c'est votre affaire. Voilà.
Donc on peut dire que c'est, disons, la corruption qui favorise tout cela, c'est laisser aller, il suffit des données. De payer l'argent, c'est fini, on vous délivre le permis de construire sans étude au préalable.
Non, on peut délivrer le permis sur base d'une étude qui a été faite. Ça, je suis d'accord. La plupart de bâtiments qui sont construits, il y a des permis. Surtout quand on est à une hauteur aussi plus grande que la hauteur du bâtiment concerné là. Souvent, il y a des permis. Mais le permis de construire à lui seul ne garantit en rien de la stabilité de cet ouvrage, de la solidité de l'ouvrage. Il faut qu'il y ait, pendant toutes les phases de construction, il faut qu'il y ait des suivis pendant les phases de construction pour se rassurer que l'étude qui a été présentée, c'est cette étude-là, le résultat est en train d'être mis en œuvre correctement. À ce niveau-là, M. Jody, nous ne faisons absolument rien.
Voilà, donc... On retient qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à dans ce secteur de construction. On va accueillir l'ingénieur Kabudi Ngabou. Il est ingénieur BTP, consultant, expert en prévention d'incendie, projet en ouvrage, projecteur en ouvrage des constructions. Il intervient depuis la Suède. Ingénieur John Kabudibudi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi, et je dis bonjour à mon frère, grand frère Kuyumbu, ingénieur. Merci. Bien.
Nous parlons. Voilà, on parle aujourd'hui des normes des constructions, des immeubles et tout ça. Est-ce que, avec tout ce qui arrive, des bâtiments qui ont des malfaçons ou qui s'écoulent, quelles sont les normes qu'il faut respecter pour éviter ce genre de situation?
Merci pour la question, monsieur Jordi. Mais au regard de ce qui se passe dans notre pays, c'est la honte, c'est une catastrophe qu'il faut nécessairement donc arrêter en principe. Parce que lorsqu'il faut parler de normes de construction, il faut que ces normes-là existent. Donc, c'est-à-dire le gouvernement de la République, une fois en action, ils prennent la décision de construire un pays moderne, un beau pays. Et à ce moment-là, le gouvernement, à travers les différents ministères, il consulte les fils dignes de pays qui sont capables de pouvoir aider le gouvernement à rédiger les tests bien aménagés pour que lorsque nous sommes en train de construire, que les constructions répondent aux normes. Et ce dernier, avec toutes les différentes disciplines, c'est-à-dire les ingénieurs, les géomètres, les architectes, toutes ces disciplines-là se réunissent pour voir dans quelle mesure on peut construire. Ils vont rédiger un document, et ce document-là qu'ils vont présenter auprès du gouvernement de la République, pour que le gouvernement arrive à régulariser, à réglementer ce document-là, de façon que ce document devienne des lois opposables à tout celui qui va construire. Et c'est ainsi que quiconque veut construire, un particulier, une entreprise, doit tirer la référence dans ces documents, un document qui est déjà réglementé par l'État congolais, où personne ne peut se passer outre, peu importe ce qu'il représente au sein de notre pays. Mais la question se pose si réellement il y a ces normes-là dans notre pays. C'est ça, point d'interrogation. Je pense que mon grand frère Uyumbu, qui est donc le président de la Corporation des ingénieurs BTP en République démocratique du Congo, il est censé bien connaître si réellement, dans notre pays, il y a les normes de construction. À ce qui me concerne, je dis non. À ce qui me concerne, je dis non. Il n'existe pas les normes réglementées dans notre pays qui font à ce que tout celui qui construit, peu importe là où il se trouve, dans n'importe quelle province, que ces normes-là soient respectées. C'est désolé parce que nous voyons la cacophonie et les catastrophes qui se passe dans notre pays.
Ingénieur aucune John, norme n'existe. Oui, ingénieur John, vous êtes là-bas en Suède et vous êtes aussi conducteur des chantiers. Dites-nous, pouvez-vous partager l'expérience de la Suède, par exemple? Comment ça se passe là-bas?
Ici, mon cher ami, celui qui veut construire, c'est-à-dire il doit être connu d'abord par l'État. Ce n'est pas dans le domaine de l'informel où tout se passe au Congo, c'est l'informel, rien n'est connu par l'État. Non, tout celui qui veut construire, il peut avoir 2 millions, il peut être un banquier, c'est-à-dire il doit consulter. Il consulte les architectes qui conçoivent les plans, il va consulter les ingénieurs qui conçoivent leurs plans à leur tour, il va consulter les électriciens qui conçoivent leurs plans. Il consulte les plombiers, il consulte les systèmes de ventilation, il consulte les ingénieurs en prévention d'incendie. Alors, toutes ces disciplines viennent avec leur plan sur base du plan de l'architecte. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas le plan de l'architecte qui doit donc diriger les projets sur les chantiers, pas seulement l'architecte, parce que l'ingénieur a aussi ce plan. Mais ce qui est dommage, c'est que dans notre pays, vous verrez un architecte sur les chantiers avec un immeuble de 3 et 4 niveaux. Ce qui ne se fait nulle part ailleurs au travers le monde. Ici, ça se passe comme cela. Alors, lorsque celui qui construit rassemble tous ces documents, et tous ces documents deviennent ce qu'on appelle un cahier de charges pour l'ouvrage. et tous ces documents sont déposés aux autorités de l'État qui sont censées octroyer ce qu'on appelle le permis de construire. Alors, les responsables de l'État qui travaillent soit à la commune, qui travaillent soit à l'hôtel de ville, ils vont feuilleter toutes les documentations ici. Ils contrôlent la prévention d'incendie, ils contrôlent l'électricité, ils contrôlent l'architecture, ainsi de suite. Là où il y a les erreurs, ils leur demandent de pouvoir modifier. Il faut modifier à ce moment-là le permis de conduire et octroyer, plutôt permis de construire et octroyer à la personne qui veut construire. Et pendant la réalisation des ouvrages, mon grand frère l'a signalé très bien, il doit y avoir le contrôle des ouvrages pour voir et s'assurer que les ouvrages se réalisent par rapport au cahier des charges, par rapport à l'autorisation des bâtures qui a été octroyée par les autorités de l'État. Ça se passe de cette façon-là.
Mmh. D'accord, on va accueillir les auditeurs et puis on revient à vous tout à l'heure. Roger Marcel est à Kinshasa, Omar Figalo également. Roger, bonjour. Bonjour Roger. Il n'est plus là. Maître Omar, bonjour.
Bonjour Monsieur Chaudier, bonjour aux invités.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux normes des constructions des immeubles en RDC?
Merci beaucoup Monsieur Chaudier, que vous m'adjugez. Ces constructions sont irrégulières et fréquentes, il faut en parler pour que ça cesse. Mais contrairement aux deux invités, je voudrais rappeler et affirmer avec force qu'il existe bel et bien une réglementation en matière de construction. Je cite la loi du 20 juillet 1973 portant code immobilier, code foncier. Cette loi prévoit certaines dispositions par rapport au nombre de constructions. Cette loi a été complétée par plusieurs arrêtés pris par les ministres d'urbanisme ainsi que ceux des affaires foncières. Et d'après cette loi, je prends le cas de l'article 204, on dit que toute construction qui ne respecte pas les normes environnementales et urbanistiques est irrégulière et doit être rejetée. C'est la loi qui le dit. Toujours d'après cette loi, avant qu'on nous remette le permis de construire, parce qu'il faut rappeler, avant de construire un permis qu'on remet, c'est un document légal délivré par le ministère de l'urbanisme. Il y a des études qui sont faites que la loi a prévues. Premièrement, il faut qu'on étudie le sol. C'est les topographes envoyés par le ministère qui vient. Il étudie si le sol n'est pas marécageux, si à bon terme. Ensuite, il y a l'étude du soutènement. On appelle un ingénieur, ça dépend du nombre d'étages qu'on fera ou d'immeubles. On vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, il faut renforcer le sol, la fondation. Et ensuite, on appelle un architecte pour le plan de la maison. Et enfin, on appelle un ingénieur de l'urbanisme pour vérifier s'il n'y a pas de dégâts sur le plan environnemental. Ce n'est qu'après toutes ces études, monsieur Jody, qu'on vous remet ce qu'on appelle le permis de construire. L'État suppose que l'étape prévue par la loi a été respectée. La construction qui sera faite n'est pas non conforme à la loi. On vous permet. Alors pourquoi les invités doivent dire qu'il n'y a pas de réglementation? Je vais encore loin. Si vous lisez la loi sur l'électricité qui a été votée en 2015, il est interdit de construire sous les câbles électriques. La loi sur l'environnement de 2011 toujours, il est interdit de construire près des cimetières ou encore près des voies ferrées. La loi a tout prévu, où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on peut pas le faire, quel est le chemin à faire. Peut-être il faut parler de l'enrichissement de la loi, la compléter, l'enrichir, mais dire
oui, maître.
Dire que cela n'existe pas, oui, dire que cela n'existe pas, c'est faux. La loi existe.
Mais elle n'est pas du tout respectée, c'est ça.
Elle n'est pas respectée, mais il y a des gens qui le respectent. Maintenant, qui doit dénoncer? C'est d'abord nous-mêmes. J'ai vu dans un quartier où une même personne, en même temps ingénieur, en même temps maçon, en même temps architecte.
Mais il semble mettre aux marques les par exemple, celui qui a son argent, qui veut construire, bon, il se passe des ingénieurs, c'est lui qui conduit les travaux. Il dit, faites-moi une maison à deux niveaux, etc. Et puis il donne l'argent, c'est lui qui commande.
C'est ça le problème, monsieur Joudi. La loi n'est pas ce qui prévoit le texte, mais pour tout ce qu'en font les acteurs. La loi est là et n'est pas respectée. Le premier travail est celui de l'OPJ ou du ministère public. Il peut se saisir d'office de tout cas parce qu'une construction irrégulière est une infraction. De deux, il y a ce qu'on appelle la dénonciation. Est-ce que les gens qui vivent dans les quartiers, qui voient des tels gens dénoncent? Si on ne dénonce pas, comment l'autorité saura? De trois, il y a au niveau du ministère de l'urbanisme et des affaires foncières des OPJ. Leur travail, c'est de rechercher. Vous n'avez jamais vu des gens passer dans un chantier pour vérifier si les normes sont respectées? Ça existe. Vous vérifiez. Est-ce que vous avez les permis de construire? Est-ce que vous avez l'avis technique du topographe, l'avis technique de l'ingénieur? Donc, l'irresponsabilité des ingénieurs qui sont au niveau des affaires foncières, l'irresponsabilité de la population qui ne s'est pas dénoncée et l'orgueil de certaines personnes qui s'évertuent à construire selon ces normes, c'est ce qui fait tout cela. Donc si la loi est respectée, si les ingénieurs font leur travail, si les OPJ passent pour vérifier la conformité, on aura trouvé la solution. Dire que la réglementation n'existe pas, c'est faux. Elle existe bel et bien, mais n'est pas respectée. Mais ce qu'il faudra ajouter, il faut l'enrichir. On m'a appris qu'on a créé un ordre des ingénieurs. Oui. Chez nous, au barreau, chaque avocat a un numéro. On ne peut pas prester sans brandir la carte. Si vous venez d'une autre province, vous devez avoir l'autorisation du bâtonnier de cette province pour prester. Donc, il y a des normes comme ça pour éviter qu'il y ait des brebis galeuses dans le métier.
Merci
voilà
beaucoup.
Voilà ma préoccupation, M. Joly. Je vous remercie.
Merci, Maître Omar. Ingénieur John Kabudibudi, vous avez suivi la réaction de Maître Omar. Vous avez la parole.
En tout cas, Maître, vraiment, vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Maître Omar, je vous ai suivi attentivement avec une attention très soutenue. La loi est loi lorsqu'elle est respectée. Vous dites que la loi existe, mais la loi n'est pas respectée. C'est-à-dire que la loi n'existe pas, mon cher Omar. Et dans ce que vous êtes en train d'évoquer là, il y a beaucoup d'imperfections. Il y a beaucoup d'imperfections. Dites-moi, dans notre pays, vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui respectent la loi. Moi, je suis Kinois, je vécu au Congo, tout ça, et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que tous les ouvrages construits en République démocratique du Congo, ce sont des ouvrages purement anarchiques. Nous aurons les problèmes à Kinshasa et il y a déjà les grands problèmes. Il n'existe pas une commune, il n'existe pas un quartier dont les principes et les normes d'urbanisation est respecté. C'est la raison pour laquelle nous avons des inondations, nous avons des éboulements, nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Une loi est loi lorsqu'elle est respectée. D'ailleurs, la loi doit être opposable à tous. Mais si à partir du moment, mon cher ami, les gens n'arrivent pas à respecter la loi, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que cette loi-là existe. Et quelle est la loi qui accepte, qui donne l'autorisation à un architecte d'aller au chantier de construire les bâtiments? Ça n'existe pas. Dans la construction des bâtiments, donc les travailleurs qui travaillent, que ce soit les conducteurs des travaux, que ce soit des ingénieurs, doivent avoir le plan d'architecte et en plus de cela, le plan de l'ingénieur. Il doit être... Mais dans notre pays, le plus souvent, nous construisons avec le plan d'architecte. Il n'y a pas le plan d'ingénieur. C'est là où ça pose des problèmes. Et si la loi existe, effectivement, il faut que les autorités... il n'est pas donné à la population de pouvoir aller dénoncer. Parce que la population est profane. La population n'est pas versée dans les domaines de construction. La population ne connaît absolument rien. Ce sont les autorités, ce sont les ministères du tutelle qui doivent travailler, cela passe dans leur sein. Ils sont des experts, ils sont des personnes expérimentées pour faire ces contrôles.
Merci, M. John. Dernier, oui. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. Ingénieur Michel Oyumbu, vous avez suivi. Maître Omar a dit que la loi existe. La loi du 20 juillet sur le code immobilier existe bel et bien. Il y a des normes, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout respectée sur le terrain. Et la conséquence, on a des bâtiments qui s'écroulent. Ingénieur Michel.
Je suis désolé. Je note que Maître Omar n'est pas informé. Que Maître Omar nous dise si le pays a un code de construction. Parce que la loi maîtresse pour développer les constructions d'un pays, ça s'appelle code de construction. C'est en fait la loi qui définit toutes les orientations et comment les constructions doivent être menées. Et en plus de cela, on peut aussi avoir, comme ça se fait dans d'autres pays, un code du bâtiment. Je l'avais déjà dit. Et pour terminer, on doit avoir aussi un code d'urbanisme. Mais nous n'avons pas tout cela. Quelle est la loi à laquelle lui se réfère à quelques arrêtés éparpillés ça et là? Ce n'est pas ça la loi. La loi doit reposer sur les différents codes du secteur. Écoutez, Maître Marc qui est avocat, c'est que si on enlève les codes civils et les codes pénals, on dira que dans ce pays, nous avons des lois. C'est les codes majeurs qui ont fait réglementer un domaine. Nous ne les avons pas. Je vais les répéter autant de fois, nous ne les avons pas. Je me rappelle, nous avons travaillé depuis des ans passés avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour évidemment rédiger ces codes de l'urbanisme et de la construction. Les projets de code ou la proposition de loi portant code de l'urbanisme et de la construction a été rédigée, traîne encore dans les tiroirs du gouvernement
parce que le ministre ne l'avait pas déposé au Parlement pour son adoption. Donc, nous attendons vivement l'adoption de ces documents de référence, les codes d'urbanisme, les codes de la construction. Ça, c'est de un. De deux, l'ensemble de décrets que nous avons ça et là, on ne peut pas construire en dessus des lignes haute tension, tout ça. Ce sont que des décrets. Ça devait être mis dans une loi pour donner force à la réglementation. Ça, c'est de un, du point de vue test légal et réglementaire. Mais le deuxième point, c'est les acteurs. Est-ce que tous les acteurs du secteur de la construction sont-ils régis par des lois? Non, monsieur. Non. Alors, dès qu'il y a une réglementation, il y a des lois. Moi, je pense que c'est affirmer des choses gratuitement parce qu'il n'y en a pas.
Bien. Monsieur ingénieur Michel Ouyumbu, lorsqu'un bâtiment est en érection, quel est le service qui est censé venir régulièrement suivre l'exécution des travaux?
Au niveau de la direction, au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, il y a une direction qu'on appelle la direction d'inspection. Cette direction, elle est nationale. À ma connaissance, c'est elle qui est censée inspecter tous les différents chantiers pour pouvoir s'assurer que les exigences au niveau des constructions sont respectées. Malheureusement, cette direction qui a un corps d'inspecteurs ne fonctionne pas. La dernière fois, je crois qu'on avait discuté de ce sujet, on nous a fait savoir que cette direction n'a pas assez de moyens pour déployer les inspecteurs partout, dans des villes et partout au pays, pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Mais nous avons suggéré quelque chose. Nous avons dit qu'au niveau de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, nous avons beaucoup d'ingénieurs. Si nous pouvons avoir un partenariat avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat, nous pouvons alors mettre à la disposition de ce ministère un grand nombre d'ingénieurs qui seront recrutés comme des inspecteurs sur les différents chantiers de travaux que l'on a sur toute l'étendue du territoire national. Il faut qu'il y ait un corps. Vous savez, mais c'est joli sur d'autres cieux. Vous ne montez pas un mur sans que vous voyez un inspecteur de l'État pour qu'il s'assure que ce mur ne va pas s'écrouler et causer mort d'homme comme la situation que nous déplorons il y a 2-3 jours passés. On ne peut pas laisser un secteur aussi important que la construction s'est développé de cette manière-là, sans une bonne réglementation, sans qu'il y ait des suivis adéquats et s'attendre à des bons résultats.
Ingénieur Michel, prenons le cas de ce bâtiment qui s'était affaissé dans la commune de la Gombe. C'était quoi les vraies raisons? Est-ce que c'était le sol qui n'était pas très solide ou les études n'ont pas été bien menées?
Je suis désolé, mais c'est jeudi, mais par les images, les quelques images que nous avons vues dans les chaînes de télévision, on ne peut pas parvenir à une très bonne conclusion. On peut peut-être donner des hypothèses qui peuvent se révéler vraies ou non vraies. Mais à ma connaissance, il y a une enquête qui a été diligentée. Je crois que l'enquête est en cours et nous tous nous attendons les résultats de ces enquêtes-là. Mais néanmoins, si sur ces chantiers, il y avait une inspection régulière, on aurait peut-être, pendant les différentes phases d'exécution des travaux, décelé qu'il y avait des erreurs que l'on pouvait éviter. Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a une construction qu'on avait entamée à quelques mètres de là. Bon, ce n'est peut-être pas ça la raison. Quand je regarde les modes de rupture de ces bâtiments qui s'est penché vers l'avant, je me pose des questions, surtout que nous sommes dans un pays où même les barres de fer qui sont sur les marchés ne répondent pas à certaines exigences de qualité. Est-ce que ce n'est pas dû aux barres de fer qui n'étaient pas bonnes? Est-ce que ce n'est pas dû à un dimensionnement qui avait été un sous-dimensionnement, c'est-à-dire les dimensions des éléments ne répondaient pas aux charges de transport à supporter? Est-ce que ce n'est pas dû au sol? Tout ça ne sont que des hypothèses. Mais la vraie raison ne peut être connue que par une enquête approfondie.
Bien. Voilà, il n'y a qu'une enquête approfondie qui peut nous révéler les vraies raisons de l'affaissement de ce bâtiment. Mais aujourd'hui, il semble que beaucoup de gens qui veulent construire s'en passent des ingénieurs. Ils pensent que, voilà, peut-être que vous êtes trop exigeant, vous coûtez cher. Alors, eux-mêmes, ils conduisent les travaux. Peut-être un bâtiment qui devait avoir un seul étage. Et puis, bon, comme il a l'argent, il demande qu'on aille au-delà.
Mais tout cela est possible parce qu'au niveau de l'État, il n'y a pas de contraintes. Si quelqu'un savait qu'il ne pourra pas monter son mur de 1 mètre sans qu'il y ait des inspecteurs qui passeront là-bas, qui vont constater qu'il n'y a pas d'ingénieur compétent, qui vont lui demander de suspendre les travaux, il n'osera pas. C'est parce que le terrain est totalement vide. Les mécanismes d'inspection n'existent pas. Alors les gens peuvent... Vous vous rendez compte qu'un immeuble comme celui-là soit monté à cette hauteur-là et qu'on nous dise qu'il n'y a jamais eu un permis. Bon, et pourquoi les travaux n'ont pas été suspendus, nous ne savons pas. Mais comment on pouvait monter jusqu'à cette hauteur-là sans qu'on sache qui est là et qui fait quoi? Nous ne savons pas. Donc, il y a de vraies raisons qui se cachent derrière tout ça. Et ces vraies raisons, ça s'appelle un désordre, tout simplement.
Bien. Et la corruption aussi.
Bon, je n'en sais pas trop, mais je crois que si on mettait de l'ordre... Parce que, vous savez, M. Jody, nous qui sommes professionnels du secteur, nous sommes... j'ai suivi notre confrère John depuis la Suède qui a dit que ce qui se passe chez nous, c'est une honte. C'est une vraie honte. Sommes-nous fiers, nous, en tant qu'ingénieurs, ou architectes, ou urbanistes, de comment notre pays est en train de se construire? Nous ne sommes pas fiers. Parce que nous savons ce qui devait être fait. Et nous constatons impuissamment que des choses se font de la manière qui n'est pas correcte.
Mais, ingénieur Michel, il semble aussi que le secteur est envahi par des... Il y a beaucoup de charlatans dans le secteur aujourd'hui.
Mais tout le monde est là-dedans, parce qu'il y a... C'est justement ce que justifie la non-absence de réglementation et de contrôle. Si nous avons une très bonne réglementation, et si nous avons une très bonne inspection, tous ces charlatans ne seraient pas là. Or, qui peut assurer tout cela, qui peut coordonner tout cela, eh bien, c'est le pouvoir public. Nous pouvons accompagner le pouvoir public pour la réglementation. Mais nous n'allons pas nous substituer, nous n'avons pas la police. Nous n'avons pas reçu le mandat de faire le travail de l'État. Mais nous pouvons, nous, accompagner l'État pour que les choses se fassent correctement.
Bien, on va accueillir Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour, Jonas.
Bonjour, M. Jean-Michel. Bonjour à l'invité. Bonjour aux milliers de Congolais qui nous écoutent.
Alors, dites-nous, là-bas aussi, à Kananga, il y a des bâtiments qui s'écroulent.
Oui, M. Jody, je ne peux plus dire, le Congo a toujours souffert des mêmes maux. Même à Kananga, il y a des maisons qui s'écroulent, il y a des bâtisses qui s'écroulent, tout simplement parce que la construction n'avait pas été bonne. Et d'entrée de jeu, je voudrais demander à l'invité, est-ce qu'un architecte digne de son nom peut être à la fois architecte et maçon? Il est sollicité, il est consulté plutôt pour la construction d'une bâtisse d'un guest house. Il a recruté les ouvriers. Est-ce que lui-même peut aussi être maçon? Qu'est-ce qui m'a poussé à poser cette question? Je suis dans la commune de Katoka. J'ai vu quelqu'un qui a payé une concession, une grande concession, et qu'il a confiée à un ingénieur. Je ne sais pas s'il est architecte, parce que tout ingénieur n'est pas architecte. Il a confié à un ingénieur, c'est comme ça que nous l'appelons, pour construire un guest house. Alors, il a fait les plans, c'est une grande maison de plus de 15 chambres à peu près, il y a un salon ainsi de suite. Mais au début, qu'est-ce que nous avons remarqué? L'ingénieur s'est amené avec des maçons. Ils ont posé la fondation, ils ont élevé le mur. Mais arrivé à un certain niveau, nous nous sommes rendus compte que les maçons sont partis, il y a une autre équipe qui est entrée. Donc, il a renouvelé des maçons. Eux aussi ont travaillé quelques temps après, ils ont disparu. Et soudainement, l'ingénieur a commencé à recruter des jeunes gens du quartier avec qui il commence à travailler. Donc lui-même s'est fait maçon, il forme sur l'État, ces jeunes gens-là, et ils sont en train d'élever la bâtisse. Avec toutes les disproportions possibles qu'on peut constater parce que c'est un ouvrage qui est construit par au lendemain. Maintenant, je me demande, Aujourd'hui, là, quand je suis en train de observer, il est resté avec un seul garçon avec qui il travaille et les autres sont encore partis. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour cette bâtisse qui a reçu plusieurs mains, même les mains des non-initiés? Et qu'est-ce qui serait encore, qu'est-ce qui serait à la base de ce changement-là, de la main-d'œuvre à tout moment? Est-ce qu'il y a un peu de cupidité? L'ingénieur, comme il est ingénieur, il sait, qu'est-ce qui peut faire que cet ingénieur-là puisse recruter régulièrement la main-d'œuvre qui est en train de travailler à cette bâtisse? Et quelles peuvent être les conséquences à la longue pour cette bâtisse-là, monsieur Jody? Merci et bonne journée.
Bien, merci. Ingénieur John Kabidi-Bidi, à vous la parole.
Merci de m'avoir donné la parole. Tout ça, brièvement, je peux dire que c'est la cacophonie qui se trouve au niveau de l'État. Je pense que dans notre pays, il faut beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. D'ailleurs, dans des ministères comme ministère d'urbanisme et habitat, superstructure, infrastructure, environnement et développement durable et autres, ce sont des ministères qui demandent à ce qu'il y ait des ministres du domaine, des ministres techniciens du domaine pour amener des réformes dans ce ministère-là de façon qu'on puisse mettre de l'ordre dans notre pays. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si vous êtes ingénieur, bien entendu, un ingénieur peut être un maçon aussi s'il a fait la formation de maçonnerie. Parce que moi qui vous parle, je suis un ingénieur, j'ai fait la formation de maçonnerie, je peux aussi construire. Mais si vous êtes ingénieur, vous n'avez pas fait la formation de la maçonnerie, ce n'est pas de votre droit de prendre la tuelle et commencer à construire. Et tout ceci pour mettre fin à cela, il a fallu que lors de l'exécution de l'ouvrage, comme mon grand frère vient de le dire, il doit y avoir les contrôles pour voir qui sont ceux-là qui travaillent dans les chantiers. Est-ce qu'ils sont-ils habilités à travailler? Est-ce qu'ils sont d'abord des maçons? Sont-ils des maçons? Sont-ils des électriciens? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est ingénieur, tout le monde est électricien, tout le monde est architecte. C'est ça la grande cacophonie qui se trouve dans notre pays. Je pense que si, au niveau des responsables de notre pays, ils cherchent à mettre de l'ordre dans ces domaines, dans ces grands ministères, chercher des consultants, des gens qui sont capables de pouvoir accompagner l'État, afin qu'on puisse donc avoir des normes, qu'on puisse avoir des codes de construction, des codes de bâtiments, et réglementer les systèmes dans notre pays. Je pense que ça peut arriver. Parce que ce que le frère vient de dire, donc les conséquences peuvent venir plus tard, néfastes. Le bâtiment peut s'écrouler, oui. Le bâtiment peut présenter des fissures, le bâtiment peut présenter ceci, cela. Pourquoi? Parce que ça a été construit par des personnes qui ne sont pas attitrées de pouvoir le faire. Donc la responsabilité incombe aux autorités de mettre un peu de l'ordre dans ce secteur-là. Et de cette façon-là, nous pouvons développer notre pays et que le pays soit un pays, donc... un pays, comment dirais-je, moderne et durable.
Bien. Voilà tout ce que je fais. D'accord. Ingénieur John Gabou Kabidi-Bidi, merci. Je rappelle que vous êtes ingénieur BTP, consultant en prévention d'incendie, projecteur en ouvrage des constructions. Excellente journée et à la prochaine.
Merci bien. Merci.
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, nous parlons aujourd'hui des normes à respecter, dans la construction des immeubles en République démocratique du Congo. Nous avons en ligne l'ingénieur Michel Ouyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP. Ingénieur Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jonas par rapport à sa question?
Oui, merci beaucoup, M. Jody. J'ai bien suivi Jonas. Je pense que mon confrère John a donné beaucoup d'éléments de réponse. Mais je voudrais aborder sur l'aspect norme. Parce que l'ingénieur John a parlé aussi de ça. Vous savez, M. Jody, un pays comme le nôtre, jusqu'à ma connaissance, dans tout le secteur de la vie nationale, nous n'avons même pas 2000 normes. Si mon chiffre est bon, nous étions à 1600 quelques normes. Et si nous sommes arrivés à 1600 quelques normes, c'est parce qu'il y a eu l'avènement de son Excellence le ministre Gilles Paloukou, et je salue le ministère de l'Industrie, parce que quand il est arrivé au ministère de l'Industrie, le pays n'avait que 400 quelques normes. 400 normes. Le temps qu'il a passé là-bas, et on a pu travailler parce que j'ai fait partie des experts qui ont pris part à des séances d'harmonisation des normes, et nous sommes arrivés à 1600. Quand bien même nous sommes à 1600, c'est très insuffisant pour l'ensemble du secteur de la vie nationale. Ça, c'est de un. Alors, sur les 1600 normes dont le pays dispose, le secteur de la construction n'a même pas 300 normes. Il y a un vide total là-dedans. Or, les normes, comme vous le savez, sont des référentiels élaborés de manière consensuelle par toutes les parties prenantes du domaine. Et ces référentiels-là vont aider, évidemment, à élaborer les réglementations que nous avons dans les différents domaines dont nous disposons des normes. Parce qu'une norme en soi n'est pas d'application obligatoire, mais volontaire. Pour qu'une norme soit d'application obligatoire, elle doit être régie, elle doit être transformée en réglementation. Mais nous n'avons qu'une centaine de normes dans le secteur de la construction. Sous d'autres yeux, rien que le secteur de la construction, vous trouverez 25 000, 30 000 normes. Le pays que nous apprécions. Même certains pays africains, que je ne citerai pas, sont plus avancés que nous dans le secteur des normes. Donc, il y a un problème sérieux dans ce secteur des normes. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que les décideurs politiques, le gouvernement, doivent avoir la main tendue aux professionnels que nous sommes, parce que nous savons, nous avons l'avantage d'avoir posé les diagnostics du secteur. Et nous avons l'avantage de savoir ce qui se fait ailleurs. Et nous avons aussi l'avantage de savoir ce qu'on peut proposer pour notre pays. C'est de cette manière-là seulement que nous pouvons être sûrs que nous allons éviter tous les désagréments qui nous arrivent dans les secteurs de la construction. Aujourd'hui, nous parlons de l'effondrement de l'affaissement d'un immeuble. Mais que dirons-nous des incendies qu'on enregistre ça et là dans les secteurs du bâtiment? Il y en a eu beaucoup. J'ai un collègue qui a répertorié les différents incendies que nous avons depuis 2-3 ans passés. Mais nous avons une bonne dizaine d'incendies. Parce que nous n'avons aucune réglementation anti-incendie dans les immeubles. Quelle est notre réglementation dans le secteur de l'incendie? Comment on peut s'assurer que les bâtiments qu'on est en train de construire aujourd'hui remplissent les exigences en matière d'incendie? Ce n'est qu'un aspect. Donc il y a plusieurs aspects comme ça. Et cela ne peut être résolu que si, et alors si, nous commençons par identifier tous les acteurs du secteur. Nous les connaissons et nous connaissons leurs compétences professionnelles. Mmh. Nous les regroupons dans les différentes institutions ordinaires pour que chacun reste dans son domaine de compétences. Cela va nous garantir un tout petit peu la qualité de ce que nous voulons faire chez nous et va nous éviter quelquefois des accidents prévisibles ou des désagréments prévisibles que nous observons ça et là dans notre pays.
Alors, quand il y a des accidents ou de telles situations malencontreuses, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un sérieux au niveau du contrôle, au niveau de l'État, il y a un relâchement quelque part, il y a une complaisance, si on peut le dire ainsi?
Je crois que je l'avais dit qu'il y a un désordre. Ça commence par qui fait quoi et qui est qui. Le désordre commence par là. Aujourd'hui, je me rappelle, je suis allé sur un chantier, je voulais recommander quelques stagiaires que j'avais au bureau. Mmh. C'était un immeuble, je crois, de 8 ou 10 étages en ville. Et il y avait un chef de chantier qui était un étranger. Je me suis pointé à l'entrée, je voulais le rencontrer. On m'a dit que l'ingénieur est là. Et j'ai dit non, je vais rencontrer l'ingénieur pour échanger avec lui. Et le monsieur n'a pas voulu me recevoir. Pour lui, il m'a pris pour un agent de l'État qui va lui créer des problèmes. Et est-ce que ce monsieur-là, qui connaît qui il est, qui connaissait les compétences qu'il a pour poser les actes qu'il est en train de poser? Donc, on ne peut pas laisser les choses demeurer comme telles. Nous devons dire non, nous devons arrêter et faire en sorte que, avant de prester sur un chantier, que toute personne qui doit le faire soit d'abord identifiée. et ses compétences sont connues. Et si nous assurons une inspection régulière des différentes constructions, c'est quelque chose que nous pouvons résoudre avec l'inspection des différentes constructions au jour le jour. Mais bien avant cela, il faut que ces gens soient identifiés. Je ne vais peut-être pas citer les différents professionnels qui sont sur les chantiers, mais je vous assure, il y en a qui sont là, qui n'ont aucune compétence pour la construction. Mais ils sont toujours là.
Bien,
ils
on
sont
va...
dans les différents chantiers.
D'accord, on va accueillir Wesley Luboya de Kananga. Bonjour Wesley.
Bonjour, je dis à tous les invités de la radio au quartier, tous les auditeurs.
Quelle est votre question?
Voilà, je suis pour votre information un environnementaliste, hein, et vous savez, la thématique que vous avez soulevée aujourd'hui, je suis d'accord et très content. Pourquoi? Parce que nous, à Kananga ici, nous vivons l'invivable. Acceptez-moi le terme. Je fais un commentaire pour vous dire que ce sont les autorités que nous avons. J'ai suivi votre invité dire que nous avons une réglementation en matière de construction ici en RDC. Mais cette réglementation est respectée par qui? Parce que les autorités elles-mêmes, en commençant par le régime de 2006, on a loti les terrains en face de Batetela. Nous sommes en plein centre-ville de Kananga. On a loti par le régime de 2006. Nous arrivons au régime de 2012-2014. On loti le terrain de Saint-Luc, là au niveau de Carrefour Saint-Clément. Le régime 2018-2019, on lotit le terrain de SNCC. Et la construction anarchique bat son plein. Et vous savez, je dis, les eaux de pluie ne sont pas canalisées. Et récemment, dernièrement, nous avons pleuré plus d'une famille à Kamulumba, où la maison s'est écroulée, et la maman et tous les enfants morts le même jour, exposés à la commune de Kananga. Tout ça, ce sont les autorités. En commençant par nos autorités qui sont à la base des mauvais lotissements de terrain et de la mauvaise construction anarchique. Alors, si notre invité que j'ai suivi religieusement dit que nous avons une réglementation, nous avons les codes, nous avons... Mais qui exécute ces codes et comment sont-ils respectés? Parce que
merci.
Ça ne se fait pas voir ici dans notre province, ville de Kananga. Merci beaucoup, Jody.
Merci, Wesley. Michel, ingénieur Michel Oyumbu.
Je crois qu'il aborde dans le même sens. Le secteur qu'est le nôtre, le secteur du BTP, c'est un secteur qui est le moteur de développement d'un pays. Quand nous voyageons ailleurs, que nous apprécions les réseaux routiers, nous apprécions les ports, les aéroports et le bâtiment, et sachez, monsieur Jody, que tout ce que nous apprécions là ne s'est pas présenté là sous forme d'une génération spontanée. Il y a donc une intelligence derrière, il y a donc une réglementation qui régit d'une part les constructions elles-mêmes, d'autre part les différents acteurs de la construction pour aboutir à ces résultats-là. Si donc demain nous voulons bâtir un pays plus beau qu'avant, ça fait partie de notre hymne national, nous devons reposer tout ce que nous faisons sur une bonne réglementation. Et nous devons reposer tout ce que nous faisons sur bonne inspection. Il faut pas seulement avoir une bonne réglementation, il faut avoir un mécanisme de contrôle de cette réglementation-là pour que tous ceux qui vont enfreindre la réglementation se retrouvent devant les juges et les tribunaux. Et que même les acteurs aussi, s'il n'a pas les compétences, il ne peut pas poser les actes qui ne relèvent pas de compétences dont lui ne dispose pas. Donc, c'est de cette manière-là, tout simplement, que nous pouvons espérer faire des choses mieux demain et que nous pouvons espérer développer harmonieusement et d'une manière durable aussi nos villes, comme ça s'est fait ailleurs.
Faut-il convoquer les états généraux, du bâtiment, tout ça, etc., pour réfléchir là-dessus?
Il n'y a pas que les bâtiments. La construction n'est pas seulement la construction du bâtiment. La construction englobe tout ce que vous appelez construction. Il y a la construction du bâtiment, il y a la construction des ports, des aéroports, des chemins de fer, des routes et tout ça. Je me rappelle en 2005, il y avait eu une table ronde des infrastructures. On avait suggéré pas mal de choses en 2005. Malheureusement, il y a des choses qu'on a suggérées depuis 2005 qu'on n'a jamais appliquées jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une très grande volonté politique, même si nous convoquons les états généraux ou la table ronde du secteur de la construction,
sans
il faut que
volonté,
cela soit accompagné par une grande volonté politique.
D'accord.
Pour que les orientations soient matérialisées.
Bien. Ingénieur Michel Oyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP, merci d'avoir participé à cette émission et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jody.
Bien. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Dans quelques instants, on va suivre les informations et on se retrouve juste après.
5 sur 5 à Brazzaville.
Le choc d'ambiance.